Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.
Je pense, les deux chats siamois de Disney. Alors, j'ai entendu là à la radio que voilà, Disney s'excusait par rapport à ces chats siamois, justement, qui, parce que du coup, ça, c'est raciste. Voilà. Alors maintenant, on entend tout.
Et son contraire.
Et n'importe quoi, voilà.
En tout cas, le ronronnement, je croyais que c'était toi, Mireille. Là, ah. Et ça reste un mystère, hein. Tu sais que le ronronnement, chez les chats, on ne sait pas
exactement
pourquoi,
oui,
le
de,
chat, à quoi ça correspond. Mais en tout cas, ils le font bien.
Voilà, hein, tout à fait bien. Voilà. Et puis là, on entend un peu donc, les bêtises qu'ils font, tout ça. Bon. Mais alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui gardent l'image du chat siamois, de celle de Disney, où ils ne sont pas gentils. Quoi.
Bah oui.
Bon alors, je vais rétablir la vérité quand même, parce que moi j'ai vu des chats siamois toute ma vie, et ils sont super les chats siamois.
T'es pas un peu partial?
Mais si, bien sûr, mais faut l'être.
Voilà.
Donc, comme vous l'aurez deviné, bien aujourd'hui, nous allons parler de Sa Majesté le Chat. Alors, ça va pas être vraiment des nouvelles, c'est plutôt des histoires courtes.
Des textes courts, on n'est pas loin.
Voilà, hein, des textes courts, ou alors on a pris des extraits aussi, hein, voilà. Donc,
on reviendra aux nouvelles.
Oui. Bah, puis même quand on va parler de Colette, on peut considérer que c'est des nouvelles, parce que c'est des petites histoires
mis
bout à bout. Voilà. Alors, l'utilisation des animaux dans la littérature remonte à l'Antiquité, hein, de Ésope, Phèdre. Et les auteurs du Moyen-Âge aussi ont fait un usage comique et satirique. Au XVIIe siècle, on a Charles Perrault avec son Chaboté, ou Jean de La Fontaine aussi, qui vont mettre en scène des animaux qui symbolisent un type humain ou une catégorie de la société. Avec Kipling, ou plus tard Colette, l'animal ouvre la voie à de nouvelles explorations et questionne sur les valeurs de la civilisation et la place de l'individu dans la nature.
Des histoires comme ça pour les petits de Kipling, ça, voilà. C'est drôle. Hein. Le chat qui s'en va tout seul.
Voilà.
Une belle histoire de Kipling.
Voilà. Moi, je l'avais en audio, cette histoire-là. Dans la revue Lire d'octobre 2019, voilà, il y a Baptiste Liger qui écrit à propos des chats, hein, ils miaulent pour un rien, dorment toute la journée, griffent les canapés, tuent les petites bêtes innocentes, font la moue devant leurs croquettes et s'amusent à éparpiller leur litière un peu partout. Pourtant, les chats, on les adore. Les écrivains n'échappent pas à la règle et l'histoire littéraire a maintes fois montré la relation passionnée entre certaines grandes plumes et cet animal. Mais pour quelle raison ?
Ah, voilà. That is the question.
Mais bon, il y en a qui vont préférer les chiens, d'autres les oiseaux, d'autres... Oui, voilà, mais le chat, c'est la meilleure bête qui soit.
Eh oui.
Peut-être pas la plus fidèle, mais...
Fidèle à sa maison.
Voilà, mais fidèle à sa maison. Alors, on va commencer tout simplement par un poème. Et ce poème, il a été écrit par Philippe, ici présent, en mémoire de son chat Topaz. Alors, je vous propose d'écouter ce poème, tout simplement intitulé Topaz. Et puis, on va enchaîner directement avec une fable de La Fontaine qui s'appelle « Le chat, la belette et le petit lapin ».
Topaz, au plastron de lion, couleur chocolat, à l'épaisse robe et fourrure angora, aux pattes de velours noir et luisant, au regard me fixant des heures durant, scrutant chacun de mes mouvements, dans l'attente d'un possible rapprochement. Topaz, statue d'Égypte ou noir félin abyssin, élégance et confiance offertes à nos mains, ombre présente en tout point du jardin, fidèle hôtesse à l'entrée du chemin, Topaz, dans ton sommeil d'éternité, quel rêve de chat as-tu emporté ? Le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette un beau matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, celui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates, un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeanne au lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Oh, dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Hola, madame la belette !» que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. » La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. « Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi ?» À Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi ? Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage ? Or, bien sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte-mite, un saint homme de chat bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin, pour juge, l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippe Minot leur dit « Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants, Grippe Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord, en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi.
Voilà.
Et tac.
Et tac, dans les dents. Alors, tu veux peut-être nous parler un petit peu de ton poème ou de ton chat ou de...
Oui, bah, c'est la force des chats, c'est qu'en écoutant le tout petit texte là que j'avais écrit, je revois ce chat qui nous accueillait à chaque fois qu'on arrivait dans le jardin. Donc on se sentait aussi une personne importante.
Bah oui, le chat était là, attends.
Et après, bah, tu cherches un peu cette présence, parce qu'il s'imprègne en nous un peu, hein, quand même, les chats. Bah, il nous donne une espèce de permanence qu'on a longtemps après leur mort, je trouve.
Bah oui, oui. Puis après, c'est vrai qu'il y a des chats qui sont plus... attachant,
plus proche que d'autres.
Ouais. Ou, voilà, c'est, donc, moi, j'en ai un en particulier, comme ça. Un chamois, bien sûr.
Un chouchou.
Un chouchou. Alors, quant à la fable de Jean de La Fontaine, elle est parue en 1678 et c'est dans les fables 7. Voilà. Alors, cette fable, hein, bien, tourne les courtisans ridicules avec leurs manœuvres et leurs intrigues pour s'attirer les faveurs du roi. Elle relève aussi l'absence de justice, puisque c'est la violence qui a toujours le dernier mot. Et c'est donc bien entendu une critique indirecte du pouvoir royal. Entre parenthèses, bien sûr, il s'agit de Louis XIV, qui est explicitement assimilé au chat, sa majesté, voilà, qui abuse de son pouvoir.
Le roi soleil chat.
Voilà. Donc Jean de La Fontaine, lui, il est né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry. Il est décédé le 13 avril 1695 à Paris. Donc c'est un poète de grande renommée, principalement pour ses fables et dans une moindre mesure pour ses contes. Mais on lui doit également des poèmes divers, des pièces de théâtre, des livrets d'opéra qui confirment son ambition moraliste. Alors, il a écrit aussi des petits textes plus...
licencieux.
Licencieux, voilà.
Et d'ailleurs, il a dû les désavouer pour pouvoir rentrer à l'Académie française.
Voilà.
Sinon, il ne rentrait pas. Et il a été censuré, notamment, par l'Église. Donc, ça n'a pas toujours été simple pour lui.
Non, pour lui, voilà. Alors, c'est en effet donc en s'inspirant des fabulistes de l'Antiquité gréco-latine, et en particulier d'Ésope, qu'il écrit les fables qui vont faire sa renommée. Le brillant maniement des vers et la visée morale des textes, qui sont beaucoup plus complexes hein, qu'il n'y paraît à première lecture, ont déterminé le succès de cette œuvre à part, et les fables de La Fontaine sont toujours considérées comme un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Alors, le fabuliste a éclipsé le conteur, d'autant que le souci moralisant a mis dans l'ombre tous les contes, voilà, licencieux qu'il avait publiés entre 1665 et 1674. Donc, il en avait quand même publié pas mal.
Pas mal. Alors, moi qui chante du Charles Trenet, il y a même une fable, une des plus connues, La cigale et la fourmi, qui a été mise en musique par Trenet. Et à l'époque, il était accompagné par Django Reinhardt le quintet du Yacht Club de France. Rien que ça.
Alors en fait, moi j'avais lu une anecdote par rapport à ça, c'est qu'ils se trouvaient chacun dans des studios différents et ils ont enregistré.
Ça a fusionné.
Ils ont enregistré juste ce morceau-là.
Le Temps des Cerises, une version du Temps des Cerises où il y a Django avec lui.
Voilà. Mais là, ce qui nous importe, c'est pas les cerises. Hein,
les cerises, les chats aiment bien chez Colette.
Donc un autre grand fan des chats, eh bien c'est Charles Baudelaire. Voilà. Alors, il a écrit plusieurs poèmes, hein, d'ailleurs, sur les chats. Et donc là, eh bien, c'est Philippe, toujours, qui va nous lire Le chat, extrait des Fleurs du Mal.
Le chat. Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat, fort, doux et charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine, tant son timbre est tendre et discret. Mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours riche et profonde. C'est là son charme et son secret. Cette voix qui perle et qui filtre dans mon fond le plus ténébreux me remplit comme un ver nombreux et me réjouit comme un filtre. Elle endort les plus cruels mots et contient toutes les extases. Pour dire les plus longues phrases, elle n'a pas besoin de mots. Non, il n'est pas d'archer qui morde sur mon cœur, parfait instrument, et fasse plus royalement chanter sa plus vibrante corde que ta voix, chat mystérieux, chat séraphique, chat étrange, en qui tout est comme en un ange aussi subtil qu'harmonieux. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir j'en fus embaumé pour l'avoir caressé une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il préside, il inspire toute chose dans son empire. Peut-être est-il fée, est-il Dieu. Quand mes yeux, vers ce chat que j'aime, tirés comme par un aimant, se retournent docilement et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement.
Le chat psychanalyste, là.
Voilà, très, voilà. Moi, j'avais appris ce poème-là au collège.
Mais j'ai vu que tu le disais à la fin. Alors, sais-tu comment s'appelait le chat de Baudelaire? Parce qu'apparemment, il n'en a eu qu'un, un chat angora, Tibère, qui était le nom d'un empereur romain. Donc, on voit bien la majesté, le chat, qui revient.
Voilà, il est sur son piédestal, là. Alors, Charles Baudelaire, lui, il est né en avril 1821 à Paris. Il est mort toujours à Paris, mais le 31 août 1867. Bien sûr, il occupe une place considérable parmi les poètes français pour un recueil, certes bref, mais qui l'aura façonné sa vie durant, qui s'intitule donc « Les fleurs du mal ».
Eh oui.
Donc, moins de 2 mois après leur parution, quand même, les fleurs du mal sont poursuivies pour offense à la morale religieuse, et outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Seul ce dernier chef d'inculpation va être retenu. Baudelaire va donc être condamné à une forte amende de 300 francs, réduite à 50 francs par suite d'une intervention de l'impératrice Eugénie. Bon, évidemment, c'est des francs de l'époque.
Oui, mais ouf quand même. Merci Eugénie.
Alors, rappelons que Baudelaire a traduit aussi quelques textes d'Alan Edgar Poe, dont la nouvelle Le Chat Noir.
Qui s'appelait Pluton dans l'histoire.
Voilà. Et donc, maintenant, on vous propose d'écouter, c'est un petit extrait d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, qui est donc un romancier, essayiste, photographe amateur aussi, et professeur de mathématiques britanniques. Donc lui, il est né le 27 janvier 1832 à Daresbury, dans le Cheshire.
Cheshire.
Et mort le 14 janvier 1898 à Guildford. Voilà, c'est plus facile à prononcer. Il est principalement connu donc pour son roman Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles, écrit en 1865, et de sa suite De l'autre côté du miroir, paru en 1871. Voilà, donc là, c'est un petit extrait. Voilà. Vous allez écouter. Donc c'est quand Alice rencontre pour la première fois ce fameux chat avec son sourire.
Sur ce, Alice ouvrit la porte et entra. La porte donnait directement sur une gigantesque cuisine, enfumée d'un bout à l'autre. La duchesse, assise sur un tabouret à 3 pieds au milieu de la pièce, berçait un bébé. Et la cuisinière, penchée sur le feu, surveillait un énorme chaudron qui semblait rempli de soupe.
Il y a sûrement trop de poivre dans cette soupe.
En tout cas, il y en avait trop dans l'air. Même la duchesse éternuait de temps à autre. Quant au bébé, il éternuait et hurlait alternativement sans s'arrêter. Les deux seules créatures de la cuisine qui n'éternuaient pas étaient la cuisinière et un énorme chat allongé devant la cheminée et qui souriait jusqu'aux oreilles.
« Voudriez-vous me dire, je vous prie, pourquoi votre chat sourit comme ça ?»«
C'est un chat du Chester, » répondit la duchesse. « Voilà pourquoi, cochon !» Elle prononça ce dernier mot avec une violence si soudaine qu'Alice sursauta. Mais elle comprit bientôt que cette remarque s'adressait au bébé et non à elle. Aussi, reprenant courage, elle poursuivit.
« Je ne savais pas que les chats de Chester souriaient tout le temps. En fait, j'ignorais que les chats pouvaient sourire. »«
Mais tous les chats peuvent sourire, » rétorqua la duchesse, « et la plupart le font. »
Je n'en connais aucun qui le fasse.
Vous ne savez pas grand-chose, ça c'est un fait, dit la duchesse. Un peu plus tard, Alice fut passablement étonnée d'apercevoir le chat du Chester assis sur la branche d'un arbre à quelques mètres d'elle. Le chat se contenta de sourire en voyant Alice. Il avait l'air d'avoir bon caractère, pensa-t-elle, mais il avait aussi de très longues griffes et un nombre considérable de dents, et elle estima qu'il valait mieux le traiter avec respect.
Minet du Chester,
commença-t-elle plutôt timidement, ne sachant pas du tout si ce nom lui plairait. Le sourire du chat s'épanouit davantage.
Bon, ça lui plaît,
se dit Alice qui poursuivit.
Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici ?
Cela dépend beaucoup de l'endroit où vous allez, répondit le chat.
Ça m'est égal.
Dans ce cas, peu importe le chemin que vous prendrez.
Pourvu que j'arrive quelque part,
ajouta Alice en guise d'explication. Oh, vous êtes assuré d'arriver quelque part si vous marchez assez longtemps. Alice estima que c'était une réponse indiscutable. Elle posa donc une autre question.
Quelle sorte de gens vivent dans les parages ?
Dans cette direction, dit le chat en faisant un geste de la patte droite, vit un chapelier. Et dans cette direction, ajouta-t-il en faisant un geste de la patte gauche, habite un lièvre de Mars. Vous pourrez rendre visite à l'un ou à l'autre. De toute manière, ils sont fous tous les deux.
Mais je ne veux pas aller chez les fous.
Oh, vous ne pourrez pas faire autrement, dit le chat. Tout le monde est fou ici. Je suis fou, vous êtes folle.
Comment savez-vous que je suis folle ?
Vous l'êtes forcément. Sinon, vous ne seriez pas venue ici. Alice estima que cela ne prouvait rien du tout, mais elle poursuivit.
Comment savez-vous que vous êtes fou ?
Pour commencer, vous m'accorderez qu'un chien n'est pas fou.
Je suppose.
Eh bien, vous avez remarqué qu'un chien grogne quand il est en colère et remue la queue quand il est content. Or, moi, je grogne quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. C'est donc que je suis fou.
J'appelle ça René, pas grogner.
Bon, appelez ça comme vous voulez. Jouez-vous au croquet avec la reine aujourd'hui ?
J'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas encore été invité.
Vous m'y verrez, dit le chat et il disparut. Cela ne surprit guère Alice, qui commençait à s'habituer aux événements les plus extraordinaires. Comme elle avait toujours les yeux fixés sur la branche où il se tenait tout à l'heure, le chat réapparut soudain. Puis, cette fois, il s'en alla lentement, en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire, qui demeura encore quelque temps lorsque tout le reste eut disparu.
Eh bien, j'ai souvent vu un chat sans sourire, mais un sourire sans chat, c'est bien la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue de ma vie.
Voilà. Et vous, vous avez déjà vu un sourire sans chat ?
On est bien dans le monde du rêve. Hein.
Et puis, et donc le dans l'histoire, donc la chatte d'Alice, elle a une petite chatte blanche, elle s'appelle Dina.
Ah, d'accord. Ceci m'explique certaines choses que je ne divulguerai pas ici.
Alors, donc le chat du Cheshire, alors je ne sais pas, je suis nulle en anglais, Cheshire, voilà, est un chat de fiction, bien sûr, et donc il est tout tigré. Son nom est un hommage de Lewis Carroll au comté du Cheshire, dans lequel il est né. Il est parfois appelé aussi chat du Chester, d'après l'ancien nom du comté. Il est souvent représenté avec un grand sourire. Et voilà. Donc, c'est un chat quand même qui est doué pour les conversations. Ce qui est quand même pas de donner à tous les chats.
Hein,
voilà. Mais surtout les conversations philosophiques. Le chat use parfois d'une rhétorique débridée, voire surréaliste, qui trouble Alice. La folie du chat est toutefois évidemment plus apparente que réelle. Et il passe pour l'un des personnages, des rares personnages, pourvus de raison dans cette histoire à bras calabrante. Voilà. Alors, le chat a la faculté d'apparaître et de disparaître selon sa volonté, suscitant l'amusement chez Alice. Alors, en fait, ce don est inspiré de la tradition du fromage du Chester, appelé selon la légende modelé, pardon, selon la légende, en forme de chat souriant et consommé à partir de la queue, le talon, et ne laissant petit à petit que le visage, oui, donc le sourire du chat.
Du chat, c'est amusant ce fromage. Et je me suis aperçu que Charles Dickens avait écrit The Cheshire Cheese Cat, donc toujours en rapport avec,
voilà,
avec ce chat.
Voilà. Alors, on va abandonner Lewis Carroll et son chat. Et on va passer à deux personnages qui apparaissent dans les dialogues de Bette de l'écrivaine Colette. Donc on va avoir Kiki la Doucette, qui est un chat angora tigré, et Toby le chien, un bulle bringé. Et elle et lui étant les seigneurs de moindre importance qui vivent
les humains
avec les chats. Donc les humains, voilà. Donc, en compagnie des deux animaux, on va découvrir une vie plutôt simple, tantôt mouvementée, des deux pattes, hein, donc les humains. Mmh. Alors, il passe ses journées à écrire, tandis qu'elle, au gré des événements, vit au contact de la nature ou sur la scène d'un théâtre de music hall. Donc, on reconnaîtra évidemment les activités de Colette et de son mari. Voilà. Donc, là, bien, Philippe va interpréter Toby le chien et moi-même le chat Kiki la Doucette, qui pour l'occasion va se retrouver avec une voix féminine, bien que qu'étant un matou.
Oui, hein, mais avec un drôle de nom équivoque plutôt de femelle.
Bah hein, oui, Kiki la Doucette, tant pis pour lui. Voilà.
Bon, puis tu as le beau rôle, hein, tu as le rôle du chat.
Bah ouais.
Le chien, on va voir, il est un peu. Bon.
un peu niais. Pour être gentil.
Un peu lourd.
Voilà. Donc, on vous laisse avec Dialogue de Bête, donc de Colette. Et donc, cet extrait des Dialogues de Bête s'appelle Sentimentalité.
Le perron au soleil, la sieste après déjeuner, Toby chien et Kiki la Doucette gisent sur la pierre brûlante. Un silence de dimanche. Pourtant, Toby chien ne dort pas, tourmenté par les mouches et par un déjeuner pesant. Il rampe sur le ventre, le train de derrière aplati en grenouille, jusqu'à Kiki la Doucette, fourrure tigrée immobile. « Tu dors ? Vis-tu seulement ? Tu es si plat, tu as l'air d'une peau de chat vide. »«
Laisse. »«
Tu n'es pas malade ? » ?»«
Non, laisse-moi, je dors. Je ne sais plus si j'ai un corps. » Quel tourment de vivre près de toi. J'ai mangé, il est 2 heures, dormons.
Je ne peux pas. Quelque chose fait boule dans mon estomac, ça va descendre, mais lentement. Et puis ces mouches. La vue d'une seule tire mes yeux hors de ma tête. Mais comment font-elles? Je ne suis que mâchoire hérissée de dents terribles. Tu les entends claquer? Et ces bêtes damnées m'échappent. Hélas, mes oreilles, hélas! Mon tendre ventre bistré, ma truffe enfiévrée, là, juste sur mon nez, tu vois? Comment faire? Je louche tant que je peux. Il y a 2 mouches maintenant? Non, une seule. Non, 2. Oh, je les jette en l'air comme un morceau de sucre. C'est le vide que je happe. Je n'en puis plus. Je déteste le soleil et les mouches et tout.
Tu as réussi à m'éveiller. C'est tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? Mes rêves sont partis. À peine sentais-je à la surface de ma fourrure profonde les petits pieds agaçants de ces mouches que tu poursuis. Un effleurement, une caresse parfois, ridée d'un frisson d'herbe inclinée et soyeuse qui me revêt. Mais tu ne sais rien faire discrètement. Ta joie populacière encombre, ta douleur cabotine gémit, méridionale va.
Bah, si c'est pour me dire ça que tu t'es réveillée.
Que tu m'as réveillée?
J'étais mal à l'aise, je quêtais une aide, une parole encourageante.
Je ne connais point de verbe digestif. Quand je pense que, de nous deux, c'est moi qui passe pour un sale caractère. Mais rentre un peu en toi-même, compare. La chaleur t'excède, la faim t'affole, le froid te fige.
Ah, je suis un sensitif.
Un énergumène.
Non, je ne le dirai pas. Toi, tu es un monstrueux égoïste.
Peut-être. Les deux pattes, ni toi, n'entendent rien à l'égoïsme, à celui des chats. Il baptise ainsi, pêle-mêle, l'instinct de préservation, la pudique réserve, la dignité, le renoncement fatigué qui nous vient de l'impossibilité d'être compris par eux. Chien peu distingué, mais dénué de parti pris, me comprendrais-tu mieux ? Le chat est un hôte et non un jouet. En vérité, je ne sais en quel temps nous vivons. Les deux pattes, lui et elle, ont-ils seuls le droit de s'attrister, de se réjouir, de laper les assiettes, de gronder, de promener par la maison une humeur capricieuse? Moi, j'ai aussi mes caprices, ma tristesse, mon appétit inégal, mes heures de retraite rêveuse où je me sépare du monde.
Je t'écoute et je te suis avec peine, car tu parles compliqué et un peu au-dessus de ma tête. Tu m'étonnes. Ont-ils coutume de contrarier ta changeante humeur ? Tu miaules, on t'ouvre la porte. Tu te couches sur le papier sacré qu'il gratte, il s'écarte aux merveilles, et se livre sa page déjà salie. Tu déambules, le nez froncé, la queue en balancier, agitée de secs mouvements, visiblement en quête de méfaits. Elle t'observe, elle rit, et il annonce la promenade de dévastation. Alors, d'où vient que tu récrimines ?
Je ne récrimine pas. D'ailleurs, les subtilités psychologiques te demeureront à jamais étrangères.
Ne parle pas si vite, il me faut le temps de comprendre. Enfin, il me semble.
Ne te presse pas, ta digestion pourrait en pâtir.
Tu as raison, j'ai de la peine à m'exprimer aujourd'hui. Voici, il me semble que, de nous deux, c'est toi qu'on choie. Et cependant, c'est toi qui te plains.
Logique de chien. Plus on me donne, plus je demande.
Eh ben, c'est mal. C'est de l'indiscrétion.
Non, j'ai droit à tout.
À tout ? Et moi ?
Bah, tu manques de rien, j'imagine.
De rien, je ne sais pas. Au moment où je suis le plus heureux, une envie de pleurer me serre les côtes. Mes yeux se troublent. Mon cœur m'étouffe. Je voudrais, à ces minutes d'angoisse, être sûr que tout ce qui vit m'aime, qu'il n'y a nulle part dans le monde un chien triste derrière une porte et qu'il ne viendra jamais rien de mauvais.
Et alors, il arrive quoi de mauvais ?
Ah bah, tu ne l'ignores pas. C'est fatalement à cette heure qu'elle survient, portant une fiole jaune où nage l'horreur. Tu sais, l'huile de ricin. Perverse, insensible, elle me maintient entre ses genoux vigoureux, desserre mes dents.
Serre-les mieux.
Mais j'ai peur de lui faire mal. Et ma langue épouvantée connaît enfin la fadeur visqueuse. Je suffoque, je crache. Ma pauvre figure convulsée agonise. Et la fin de ce supplice est longue à venir. Tu m'as vu après me traîner mélancolique, la tête basse, écoutant dans mon estomac le glouglou malsain de l'huile et caché dans le jardin ma honte.
Tu la caches si mal.
C'est que je n'en ai pas toujours le temps.
Elle a voulu, j'étais petit, me purcher avec l'huile. Je l'ai si bien griffée et mordue qu'elle n'a pas recommencé. Elle a cru une minute tenir le démon sur ses genoux. Je me suis roulé en spirale, j'ai soufflé du feu, j'ai multiplié mes 20 griffes par 100, mes dents par 1000, et j'ai fui comme par magie.
Je n'oserais pas. Je l'aime, tu comprends. Je l'aime assez pour lui pardonner même le supplice du bain.
Oui, dis-moi ce que tu ressens. La seule vue de ce qu'elle te fait dans l'eau me remplit de frissons.
Hélas, écoute et plains-moi. Quelquefois, lorsqu'elle est sortie de son bassin de zinc, vêtue de sa peau toute seule, une peau sans poils et douce, que je lèche avec respect, elle ne remet pas tout de suite ses peaux de linge et d'étoffe. Elle reverse de l'eau chaude, y jette une brique brune qui sent le goudron et dit « Toby, cela suffit, mon âme me quitte déjà, mes jambes flageolent, quelque chose sur l'eau brille qui danse et m'aveugle, une image en forme de fenêtre tortillée. Elle me saisit, pauvre corps évanoui que je suis, et me plonge, Dieu. Dès lors, je ne sais plus rien, je n'espère qu'en elle, mes yeux s'attachent aux siens, durant qu'une tiédeur étroite colle à moi, épiderme sur mon épiderme. Brique mousseuse, odeur de goudron, eau piquante dans mes yeux, dans mes narines, naufrage de mes oreilles. Elle s'excite, elle m'étrille d'un cœur allègre, ahane, rit. Enfin, c'est le sauvetage, le repêchage par la nuque, pattes battant l'air et cherchant la vie, la serviette rude, le peignoir où je goûte une convalescence épuisée.
Remets-toi.
Ah, dame, rien que de le raconter, mais toi-même, si narquoisement curieux de mes malheurs, ne m'es-tu pas apparu un jour terrassé sur une table de toilette au-dessous d'elle qui, armée d'une éponge...
Oh, une vieille histoire. Ma culotte de zouave était salie. Elle a voulu la nettoyer. Je l'ai persuadée que je souffrais atrocement sous l'éponge.
Que tu es menteur. Elle t'a cru ?
Pas tout le temps. C'est de ma faute. Renversée sur le dos, j'offrais le ventre candide, les yeux pardonnants et terrifiés d'un agneau à l'autel. Je perçus, à travers ma culotte floconneuse, un fraîchissement à peine, puis rien d'autre. L'épouvante me prit, je craignis ma sensibilité abolie. Mes gémissements rythmiques s'enflèrent, puis décrurent. Tu connais la puissance de ma voix. Puis montèrent encore comme une clameur marine. J'imitais le petit veau, l'enfant fouetté, la chatte en amour, le vent sous la porte, grisé peu à peu de mon propre chant. Si bien qu'elle avait depuis longtemps fini de me souiller d'eau froide et que je gémissais encore, les yeux au plafond devant elle, qui riait sans tact et criait « Tu es menteur comme une femme !»
Ah, ça c'est embêtant.
Je lui en ai voulu pendant tout un après-midi.
Oh, pour bouder, tu t'en acquittes. Moi, je ne peux jamais. J'oublie les injures.
Et tu lèches la main qui te frappe, connu.
Je lèche la main qui... Oui, bah, c'est tout à fait comme tu dis. C'est une jolie expression.
Oh, elle n'est pas de moi. La dignité ne t'étouffe pas. Ma parole, j'ai souvent honte pour toi. Tu aimes tout le monde, tu accueilles d'un derrière plat toutes les rebuffades. Ton cœur est avenant et banal comme un jardin public.
Ah, n'en crois rien, mal élevé. Tu te trompes, toi, l'infaillible, aux manifestations de ma politesse. Voyons franchement, veux-tu que je gronde au mollet de ses amis, à lui, de ses amis, à elle, des gens bien vêtus, que je ne connais pas, qui savent mon nom, et me tirent bonnement les oreilles ?
Je hais les nouveaux visages.
Je ne les aime pas non plus, quoi que tu dises, j'aime elle et lui.
Eh bien, moi, j'aime lui et elle.
Oh, il y a longtemps que j'ai deviné ta préférence. Il y a entre toi et lui une espèce d'entente secrète.
Une entente, oui, secrète et pudique et profonde. Il parle rarement, gratte le papier avec un bruit de souris. C'est à lui que j'ai donné mon cœur avare, mon précieux cœur de chat. Et lui, sans parole, m'a donné le sien. L'échange m'a fait heureux et réservé, et parfois, avec ce bel instinct capricieux et dominateur qui nous fait les rivaux des femmes, j'essaie de, sur lui, mon pouvoir. À lui, quand nous sommes seuls, les oreilles diaboliques pointées en avant, qui présagent le bon sur son papier à gratter. À lui, le tap-tap des pattes tambourinantes à plat, au travers des plumes et des lettres éparses. À lui aussi, le miaulement insistant qui demande la liberté. L'hymne aux boutons de porte, dit-il en riant, ou encore la plainte du séquestré. Mais à lui seul aussi, la contemplation tendre de mes yeux inspirateurs qui pèsent sur sa tête penchée jusqu'à ce que son regard appelé cherche et rencontre le mien dans un choc d'âme si prévu et si doux que je clos mes paupières sous une honte exquise. Elle s'agite trop, me bouscule souvent, me vanne dans l'air pattes réunies, deux par deux, s'énerve à me caresser et rit haut de moi, imite trop bien ma voix.
Je te trouve difficile. Assurément, je l'aime, lui qui est bon, qui détourne les yeux de mes fautes pour n'avoir pas à me gronder. Mais elle, c'est ce que je vois au monde de plus beau, de plus cher et de plus incompréhensible. Son pas m'enchante, ses yeux variables me dispensent le bonheur et la tristesse. Elle est pareille au destin et n'hésite jamais. Les tourments même de sa main, tu sais comme elle me taquine.
Durement ?
Non, pas durement, mais finement. Je ne puis rien prévoir. Ce matin, elle s'est penchée comme pour me parler, a soulevé mon oreille de petit éléphant et a jeté dedans un cri pointu qui est descendu au fond de ma cervelle.
Horreur !
Était-ce bon ? Était-ce mauvais ? Maintenant encore, j'hésite. Cela a déchaîné en moi une folie circulaire de nervosité. Presque chaque jour, sa fantaisie exige que je fasse le poisson. Soulevée dans ses bras, elle étreint mes côtes jusqu'à la suffocation, jusqu'à ce que ma bouche muette s'ouvre comme celle des carpes qu'on noie dans l'air.
Je la reconnais bien là.
Soudain, je me sens libre et vivant, vivant par le miracle de sa seule volonté. Que la vie alors me paraît belle. Comme je mâchouille sa main pendante ou l'ourlet de sa robe.
Le joli jeu.
Tout le bien et tout le mal me viennent d'elle. Elle est le tourment aigu et le surrefuge. Lorsque, épouvanté, je me jette en elle, le cœur fou, que ses bras sont doux et frais ses cheveux sur mon front. Je suis son enfant noir, son Toby chien, son tout petit amour. Pour me rassurer, elle s'assoit par terre, se fait petite comme moi, se couche tout à fait pour m'enivrer de sa figure au-dessus de la mienne, renversée dans sa chevelure qui sent bon le foin et la bête. Comment résister alors ? Ma passion déborde, je la fouille d'une truffe énervée. Je cherche, trouve, mordille le bout croquant et rose d'une oreille, son oreille, jusqu'à ce qu'elle crie, chatouillée, « Toby, c'est terrible, au secours, ce chien me mange !»
Saine joie, brutale et simple, et tu t'en vas ensuite faire la cour à la cuisinière.
Et toi, à la chatte de la ferme.
Assez, je te prie, ceci ne regarde que moi, et la petite chatte.
Oui, une jolie conquête. Tu devrais rougir, une chatte de 7 mois.
Un fruit vert, une baie sauvage, te dis-je, et personne ne me la volera. Elle est svelte autant qu'une rame à pois.
Vieux polisson.
Longue et balancée sur de longues pattes, elle va du pas incertain des vierges. Le dur travail des champs, elle chasse le mulot, la musaraigne, voire la perdrix, a durci ses jeunes muscles, assombrit un peu sa figure d'enfant.
Elle est laide.
Non point laide, mais bizarre. Un museau de chèvre aux narines roses, coiffé d'oreilles d'âne à la mode paysanne, des yeux latéraux, couleur d'or ancien, dont le regard fif trébuche souvent dans un piquant strabisme. De quel cœur elle me fuit, confondant sa puseur avec l'effroi. De mon côté, je passe lentement, on dirait indifférent, drapé dans ma robe splendide, dont les rayures l'étonnent. Elle y viendra. À mes pieds, la petite chatte énamourée, qui aura jeté toute contrainte et se roulera sous moi comme une écharpe blanche.
Moi, je veux bien, hein, tu sais. Ici, les choses de l'amour me laissent relativement froid. L'exercice physique, mes soucis de gardien, je ne pense guère à la bagatelle.
La bagatelle, commis voyageur, va.
Et puis, je peux bien t'avouer, hein. Tu vois comme je suis petit. Eh bien, par une guigne invraisemblable et pourtant vraie, je ne rencontre aux alentours que de jeunes géantes. La chienne de la ferme, une grande diablesse bâtarde aux yeux jaunes, m'accueillerait, comme elle accueille, n'importe qui. Dévergondée, oh ça, mes bonnes filles, odorantes, et cette espèce de charme exténué, et canaille, ces regards affamés de louves douces. Hélas, je suis si petit. Chez les voisins, je connais encore une Danoise, placide, vertigineuse comme une Alpe, une bergère qui n'a jamais le temps à cause de son métier, une chienne d'arrêt nerveuse qui mord tout à coup, mais dont les yeux sauvages promettent l'ardeur. Hélas, hélas, j'aime mieux ne pas y penser. C'est trop fatigant. Revenir surmené et non satisfait, battre la fièvre toute la nuit, assez. J'aime... Eh bien, elle et lui, dévotement, d'une passion émue qui me grandit jusqu'à eux. Elle suffit d'ailleurs à occuper mon temps et mon cœur. L'heure de la sieste passe, chat, mon méprisant ami, que j'aime pourtant et qui m'aime, ne détourne pas la tête. Ta pudeur singulière s'emploie à cacher ce que tu nommes faiblesse, ce que je nomme amour. Crois-tu que je sois aveugle ? Lorsque je reviens avec elle vers la maison, J'ai vu 20 fois, derrière la vitre, ta figure triangulaire s'éclairer et sourire à mon approche. Le temps d'ouvrir la porte, tu avais déjà remis ton masque de chat, ton joli masque japonais aux yeux bridés. Peux-tu le nier ?
Oh, l'heure de la sieste passe. L'ombre conique des poiriers croît sur le gravier. Tout notre sommeil est parti en parole. Tu as oublié les mouches, ton estomac inquiet, la chaleur qui danse en ondes vers les prés. Le beau jour lourd s'en va. Déjà l'air s'émeut et courbe vers nous l'odeur des pins dont le tronc fond en larmes claires.
Ah, la voici. Elle a quitté son fauteuil de paille, étiré ses bras gracieux, et je lis l'espoir d'une promenade dans le mouvement de sa robe. Tu la vois derrière les rosiers ? Elle casse de l'ongle une feuille de citronnier, la froisse et la respire. Je lui appartiens. Les yeux fermés, je devine sa présence.
Je la vois. Elle est tranquille et douce, pour l'instant. Je sais surtout qu'il la suivra de près, en quittant son papier. Il sortira en l'appelant « Où es-tu ?» et s'assoira, fatigué, sur le banc. Pour lui, je me lèverai avec politesse et j'irai garder de mes ongles la jambe de son pantalon. Silencieux, pareil, heureux, nous écouterons tomber le jour. L'odeur du tilleul deviendra sucrée jusqu'à l'écœurement. À l'heure même où mes yeux de voyant s'agrandiront, noirs, et liront dans l'air des signes mystérieux. Là-bas, derrière la montagne pointue, un calme incendie, plus tard, s'allumera, une vapeur ronde, d'un rose glacé dans le bleu cendreux de la nuit, un cocon lumineux d'où éclora le tranchant éblouissant d'une lune coupante qui voguera, fendant les nuages. Et puis, ce sera le moment d'aller dormir. Il me prendra sur son épaule et je dormirai, car ce n'est pas la saison de l'amour, sur son lit, contre ses pieds soigneux de mon repos. Mais le petit matin me verra frissonnant, rajeuni, assis face au soleil, dans le nimbe d'argent dont m'encense la rosée, et semblable, en vérité, au Dieu que je fus.
Et voilà.
Légèrement snob, hein, le chat.
Faut ce qu'il faut. Hein, voilà. Bon, c'est sûr que ça va pas améliorer l'image du chat.
Ni du chien.
Entre le chat qui se sent supérieur et le chien débile. Alors bon, donc ça c'est le point de vue de Sidonie Gabrielle Colette, dite Colette. Alors elle est née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne, et elle est décédée le 3 août 1954 à Paris. Donc c'est une femme de lettres française, hein, également mime, comédienne, actrice, journaliste. Elle est l'une des plus célèbres romancières, aussi bien en France qu'à l'étranger, de la littérature française. Sa bisexualité, affirmée et revendiquée, occupe une large place dans sa vie et son œuvre. Donc, et c'est quand même la deuxième femme élue membre de l'Académie Goncourt en 1945, après Judith Gauthier. Et elle en est la présidente entre 1949 et 1954. Elle est aussi la première femme en France à recevoir des funérailles nationales. Alors, Dialogue de Bête paraît sous sa forme actuelle en 1948, mais ils ont été écrits entre 1904 et 1921. En 48, Colette est alors un écrivain reconnu et célébré. Et elle est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, parmi lesquels Chérie, La Maison de Claudine ou Le Blé en Herbe, qui sont déjà considérés comme des classiques de la littérature française. Alors, elle a écrit d'autres textes, hein, où l'animal occupe une place centrale, comme La Pêche et les Bêtes en 1916, Prison et Paradis en 1932, La Chatte en 1933, Chat au pluriel 1935, De la Pâte à l'aile en 1943 et bien d'autres récits.
Tout
aussi
un programme.
Concernant les chats.
Les chats. Colette disait, le temps passé avec un chat n'est jamais perdu. Il n'y a pas de chat ordinaire. J'aime bien. C'est court,
c'est vrai,
mais c'est net.
Vrai, ça. Voilà, tous les chats. Alors, il y a un livre de Doris Lessing qui s'appelle Les chats en particulier,
ah oui,
où elle parle donc de tous les chats qu'elle a eu dans sa vie. Et donc, là, on n'a pas le temps d'en lire un extrait, mais
ça pourrait faire partie.
Voilà, mais c'est vrai. Et donc, elle raconte chacun des chats qu'elle a eu et qui était particulier, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, on vous propose d'écouter... alors là, c'est le prologue d'un livre qui s'appelle « Mémoire d'un chat ». Et donc, on vous propose la première partie du prologue et qui s'appelle « Ce qui se passa avant notre voyage ». Et donc, c'est écrit par Hiro Arikawa.
Je suis un chat. Je n'ai pas encore de nom. Il paraît que dans ce pays... un chat de génie a prononcé ces mots. Je ne sais pas s'il était génial, mais moi, au moins, j'ai un nom. Sur ce point, le chat de génie, je le mets à l'amende. Quant à savoir si mon nom me va bien, c'est une autre histoire. Parce que celui qu'on m'a donné pose tout de même un problème d'adéquation au niveau du genre. Ça fait environ 5 ans que je le porte, ce nom. Depuis que je suis devenu adulte, en fait. À ce sujet, il y a plusieurs théories concernant la méthode de conversion des années chat en années humaines, paraît-il, mais généralement, on s'accorde à dire qu'un chat d'un an est l'équivalent d'un humain de 20 ans. À l'époque, mon endroit préféré pour dormir, c'était le capot d'un monospace sur le parking d'un immeuble. Vous savez pourquoi j'aimais bien cette voiture ? Parce que je n'en faisais pas chasser comme un malpropre à coups de pshhh. Ces humains, qui sont tout juste des singes qui marchent debout, sont d'un orgueil insupportable. Non mais qu'est-ce qu'ils croient ? Ils laissent leur voiture couchée dehors et ils ne veulent même pas que les chats marchent dessus. Tout endroit accessible aux pattes de chat est une voie publique, c'est juste du bon sens. Mais laissez par inadvertance quelques traces de pattes sur un capot et vous ne tarderez pas à voir des humains excédés vous envoyer balader. Donc, le capot de ce monospace était ma couchette préférée. C'était mon premier hiver, et ce capot bien chaud par le soleil faisait un excellent parquet chauffant, idéal pour la sieste. Puis le printemps est arrivé, et j'avais réussi à compléter le cycle des 4 saisons. C'est une grande chance pour un chat d'être né au printemps. La saison des amours félines a lieu 2 fois par an, au printemps et à l'automne, mais la plupart des chatons qui naissent à l'automne ne passent pas l'hiver. J'étais donc couché en boule bien au chaud sur le capot du dit monospace quand j'ai senti un regard ému. J'entr'ouvre un œil. Un grand échalas m'observait avec des yeux débordants de tendresse.
« Tu dors toujours ici, toi ?»«
Oui, bon, et alors ?»«
Qu'est-ce que tu es mignon !»«
Il paraît, c'est ce qu'on me dit toujours. »«
Je peux te toucher ?»«
Ah ça, non !» À peine je lève une patte en signe de menace, très légèrement, et voilà le grand dadais qui peste et fait la moue. Non mais mets-toi à ma place un peu, ça t'énerverait pas, toi, que quelqu'un vienne te tripoter partout pendant que tu dors?
Ah, ce n'est pas gratuit, c'est ça?
Mais c'est qu'il comprend. Ta page diurne, ça mérite une petite amende. Quand j'ai levé la tête pour lui lancer un regard, il a commencé à fouiller dans son sac de supermarché.
Je n'ai pas grand-chose de bon pour un chat.
T'inquiète, je suis un chat sans domicile fixe. Je vais pas faire la fine bouche. Tiens, par exemple, ces manteaux de coquille Saint-Jacques, ça m'irait parfaitement. Je renifle un paquet qui montre le bout de son nez hors du sac. Quand, pif, le mec me lance un coup sur la tête. Et il y a faux départ, là.
Ah, ce n'est pas bon pour ta santé, ça. Et puis c'est pimenté, tu ne vas pas aimer.
Pas bon pour ma santé, que tu dis. Tu t'imagines peut-être qu'un chat errant, qui ne sait pas ce que demain lui réserve, se préoccupe de sa santé? La blague. Tout ce qui compte pour moi, en cet instant précis, c'est de me remplir le ventre. Après hésitation, l'homme a déchiré un bout de côtelette de porc pané de son sandwich. Il a enlevé la chapelure avec les doigts, puis me l'a tendu. Hein? Que je mange ça, là, comme ça? Et, oh, tu crois m'avoir aussi facilement? Bon, enfin, de la bonne viande bien fraîche et nourrissante, je n'en ai pas tous les jours au menu. Alors disons que je suis prêt à accepter, à titre d'accord de réciprocité. J'étais en train de mâchonner le morceau de porc pané quand j'ai senti un doigt me glisser sous le menton jusque dans l'oreille. C'était sa main libre, la droite. Il passe doucement derrière l'oreille. Je ne suis pas contre le fait de me laisser caresser un bref instant par un humain qui vient de me donner à manger. Et puis, en l'occurrence, c'est un expert. D'ailleurs, tu sais, si tu m'en donnes encore un peu, je veux bien que tu me caresses sous le menton. Je me frotte contre sa main. Et voilà le travail, facile. Avec un sourire dépité, il me donne le dernier morceau de porc de son ex-sandwich au porc pané, toujours en ôtant la chapelure. Mais tu peux bien la laisser, tu sais, ça remplit bien le ventre, ce truc.
Bon, il me reste juste un sandwich au chou maintenant.
Je le laisse me caresser, mais pas trop, juste la dose équivalente à ce qu'il m'a donné. Voilà. Bon, et maintenant, au revoir, on ferme. J'allais lever une nouvelle fois la patte pour lui signifier qu'il pouvait disposer.
Allez, salut, à la prochaine.
Il a retiré sa main encore plus vite et il est parti, rentrant chez lui par l'escalier. Alors là, décidément, même question timing, ce type est un expert. C'est comme ça que s'est déroulée notre première rencontre. C'est lui qui, quelque temps plus tard, allait me donner mon nom.
Un peu la même idée que Colette.
Voilà.
Hein, anthropomorphisme.
Donc Hiro Arikawa, donc elle est née le 9 juin 1972, donc écrivaine japonaise. Elle va remporter le 10e Grand Prix du roman Denkeki pour écrivain débutant avec Shio no Machi, Wish on My Precious en 2003. Voilà, et donc son livre est publié l'année suivante et elle va donc écrire souvent à propos des forces japonaises d'autodéfense. Voilà. Donc après elle va avoir écrit aussi quelques autres livres, mais donc c'est voilà, une jeune écrivaine.
Écrivaine. Au Japon, le chat est un symbole d'amitié, porte-bonheur. Tu sais, il y a la petite figurine du chat porte-bonheur Maniki Neko là,
oui,
qui lève la patte
bonjour,
alors gauche pour attirer les clients. Et droite pour attirer bonne fortune.
Ah, je savais pas qu'il y avait deux.
Tout un symbole.
Ah, voilà. Bon, faut pas avoir les deux, quoi. Alors, pour terminer cette émission, voilà, je me suis laissé aller à un petit exercice de style, parce qu'il y a beaucoup d'expressions populaires qui font référence à ces charmantes petites boules de poils à pattes, là. Et donc, j'ai rassemblé quelques-unes de ces expressions pour construire un texte. Alors, bon, il n'est pas trop bancal, voilà, donc je vous le laisse à votre...
Chacun cherche son chat.
Son chat, voilà, quel titre d'un film, en fait, hein. Voilà. Donc je vous laisse écouter.
Des pots trop minés, je me lève avec précaution, car attention, il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Rami la grebis somnole dans les bras de Morphée en émettant des petits bruits étranges. Il doit rêver qu'il pourchasse une souris. Après une toilette de chat, je m'habille en catimini. Oh là là, dans le désordre de ma penderie, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Mais bon, pas de quoi fouetter un chat. J'avale un café noir avant de partir, mais il a un goût de pipi de chat. Tant pis. Je sors d'un pas vif et alerte dans la pâle clarté du matin, chaussée de mes cuissardes, telles celles du chat botté. Bien m'en a pris, car selon l'expression anglaise, il pleut des chats et des chiens. Mais je garde ainsi les pieds au sec. La journée s'annonce difficile, car comme chacun sait, chat échaudé craint l'eau froide. Je dois donc rester sur mes gardes et la méfiance est de mise pour ce rendez-vous avec Alfred. Car appelons un chat un chat. Alfred est un éditeur acariâtre et grognon qui ressemble à un vieux matou grassouillé et rusé. Nous nous entendons comme chien et chat et il aime jouer au chat et à la souris avec ses auteurs. Nous avons rendez-vous dans un bar à chat appelé la Mère Michel, situé près du parc Montsouris, dans une ruelle où la nuit, tous les chats sont gris. Alfred, sourcils broussaillés et moustache frémissante, se laisse lourdement tomber dans un profond fauteuil recouvert d'une épaisse fourrure. Il émet tout d'abord quelques follements rauques car il a un chat dans la gorge. Toutefois, tel le chat de chercheur, il esquisse un large sourire à ma vue. Inquiète, je lui tends mon texte en minaudant tel une chatte amoureuse. Arrête tes chatteries, me lance Alfred en prenant les feuillets. Il lit rapidement et s'exclame. Chat alors ? Pour tout vous dire, Alfred a un cheveu sur la langue. Contre toute attente, ce vieux matou roublard semble enthousiaste. Il en ronronne presque de satisfaction. Quel est le trite de ce bref réchi ? Demande-t-il. Tu n'as pas une petite idée ? Rien ne t'a mis la puce à l'oreille ? Non, je donne ma langue au chat. Ma réponse jaillit aussitôt. Chacun cherche son chat. Et d'ajouter, chat noir, chat blanc. J'espère que même la mère Michel trouvera son chat, car à chacun son chat. Ah, chère Minette, ce chéri mérite un Patchy Award. Chapristi, les mots me manquent. Un comble pour un éditeur, pour te complimenter. De joie, telle une chatte sur un toit brûlant, j'en aurais joué à chat perché. Aussi pâteau qu'un chaton, Alfred s'extipe de son fauteuil, trébuche, mais comme tout bon chat, retombe sur ses pattes et s'éloigne dans sa démarche chaloupée. Toute griffe dehors, je surgis dans la rue et me faufile jusque chez moi retrouver mon compagnon à poil. Allez, Ramina Grobis, viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux. Nous jetterons ensemble nos pattes de mouche sur la page blanche pour finir cette histoire fantaisiste et pleine de félinerie. Ah, quel charivari!
Quel charivari! Ça manque pas de référence, hein.
Ben oui, hein.
Bravo, Mireille.
Donc voilà, vous aurez entendu le Ramina Grobis qui était dans la fable de Jean de la Fontaine.
De la Fontaine. Voilà. Maintenant, on va aller manger une petite langue de chat.
Voilà. donc voilà, on en a fini voilà, avec les chats. Alors, il y a bien d'autres écrivains, hein, bien sûr, qui aiment les chats, qui en ont parlé. Alors, Patricia Highsmith, par exemple, qui est une des maîtresses du roman policier, avait une passion pour les chats siamois, notamment. Voilà. Alors, Georges Simenon aussi, qui en a fait le héros, d'ailleurs, dans son roman Le Chat. Alors, d'ailleurs, la musique que vous entendez là, je vous la mets un peu plus fort, c'est la musique du film Le Chat.
Terrible, avec Jean Gabin et Simone Signoret.
Voilà. Une musique de Philippe Sard. Alors, n'oublions pas non plus Marcel Aimé avec ses contes du chat perché, dont le chat Alphonse conseille Delphine et Marinette.
Un classique.
Voilà, donc Doris Lessing, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il y a Céline aussi.
Avec son bébère le chat.
Voilà, c'est ça. Et qui lui dit « Un chat, c'est l'ensorceleur même, le tact des ondes. » Voilà. Wow. Ou encore Paul Léoto qui disait « Chaque fois qu'une maîtresse me quitte, j'adopte un chat de gouttière. Une bête s'en va, une autre arrive.
» Oui, alors là, c'est... Alors, Paul Léoto, en moyenne, il avait 30 chats et 12 chiens. En moyenne.
Voilà. Alors bien sûr, hein, Sa Majesté le Chat apparaît également dans bien d'autres styles littéraires, comme la bande dessinée. On se rappelle de Crazy Cats, de Félix le Chat, Fritz the Cat, Tom et Jerry dans Garfield, ou Le Chat du Rabbin encore, voilà.
Philippe Guéluc avec ses chats stylisés.
Voilà, voilà, c'est pas les chats qui manquent, voilà, à l'appel.
Non, alors moi, est-ce que Mireille, je peux lire un petit extrait d'une chanson de Brassens?
Mais certainement, on dépasse un petit peu l'horaire, mais je pense qu'on n'est pas...
C'est sympa,
on va pas nous
taper sur les doigts,
j'espère.
Nos pattes de chat. C'est un extrait du testament, j'aime bien le testament, l'idée que Brassens dit que, bon bah, après son trépas, il conseille à sa femme de retrouver un compagnon, et puis le compagnon, il pourra un peu faire ce qu'il veut de ses affaires, mais il y a une petite restriction, donc je lis un extrait du testament. Hein. Je ne vais pas le chanter parce que j'ai un chat dans la gorge. Qu'il boive mon vin, qu'il aime ma femme, qu'il fume ma pipe et mon tabac. Mais que jamais, mort de mon âme, jamais il ne fouette mes chats. Quoique je n'ai pas un atome, une ombre de méchanceté. S'il fouette mes chats, il y a un fantôme qui viendra le persécuter. Vous s'appelez Brassens pour écrire ça sur son chat, ses chats.
Bah oui, pas
fan de siamois aussi. Hein.
Bah oui, il avait un chat siamois. Brassens. Aussi, ouais. Dans Hergé aussi, Tintin, il a Milou, son petit fox, mais le capitaine Haddock, il a un chat siamois.
Exact.
Waouh. Tout à fait.
Je n'y pensais plus.
Bien, bon, bah alors on va vous quitter là. Alors je vous mets juste un petit extrait vite fait du duo de chat. Et puis on embrayera sur le générique. Voilà, mais je vous laisse écouter le duo de chat.
Ça, c'est deux.
Meow! auditeurs une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.